Réplique, que reste-t-il de Marx aujourd'hui avec Daniel Ben Saïd et Emmanuel Terray. Alain Finkielkraut, prise de son Jean-Louis Boissonnade, réalisation Didier Lagarde. Au lendemain de la chute du mur de Berlin, Emmanuel Terray, dans la pensée et dans la vie duquel Marx a beaucoup compté, publiait chez Actes Sud « Le troisième jour du communisme », un livre profond et poignant où il s'efforçait sans faux-fuyant de répondre à la question « Qu'est-ce exactement qui est mort en cet automne fatidique de 1989 ?» Nous, qui n'avons pas oublié ce que nous fûmes, des jeunes gens qui se sont engagés il y a 30 ou 35 ans sur un chemin que bien d'autres avaient parcouru avant eux, avons-nous perdu notre vie? Nous sommes-nous fourvoyés dans une impasse vouée à l'abomination et au mépris? 6 ans ont passé depuis la chute du mur. L'ivresse se dissipe et, tout en continuant de célébrer la sortie du communisme hors du théâtre de l'histoire, l'Europe vit une sorte de gueule de bois. Le chômage persistant, la violence de l'exclusion, le caractère impitoyable de la guerre économique, la brutalité du marché dans les pays de l'Europe centrale ou orientale, le retour de la guerre entre nations sur le sol de l'Europe, la montée en puissance des intégrismes religieux, tous ces problèmes que la société libérale secrète ou bien qu'elle ne sait pas résoudre, conduisent à remettre en cause le règne sans partage des principes libéraux. Marx, maître penseur naguère honni, fait retour sur la scène intellectuelle. Le temps n'est plus à la pénitence, mais au défi, si l'on en croit Marx l'intempestif, la brillante défense et illustration d'une pensée calomniée par ses ennemis et trahie par ses fidèles, que Daniel Ben Saïd publie chez Fayard. Intempestif. Le mot fait bien sûr penser à Nietzsche, et à ses considérations intempestives. Or, Léo Strauss dit quelque part que Nietzsche donnait au concept de volonté de puissance une signification subtile et noble. Toutefois, ajoute Strauss, l'interprétation brutale et ignoble qui en fut plus tard faite n'est pas complètement indépendante du changement radical d'orientation qu'il avait suggéré. De même, et ce sera, Daniel Ben Saïd, ma première question, peut-on exonérer la pensée marxiste de la catastrophe où ont sombré sous toutes les latitudes tous les régimes qui s'en sont réclamés?
Le problème, enfin, la pensée marxiste, c'est déjà une notion que j'hésiterais à employer. En revanche, si on doit trouver... Je crois qu'il est nécessaire de faire un examen de conscience. Hein, c'est le moment s'y prête. On est à un tournant de l'histoire européenne, probablement mondiale. Et puis l'effondrement des grandes orthodoxies permet de porter sur l'œuvre de Marx un regard qui éclaire des aspects qui ont été plus ou moins refoulés, occultés ou recouverts par les idéologies officielles. Alors, en termes d'examen de conscience, s'il y a une responsabilité, je crois qu'il est possible qu'il y en ait une, je dirais c'est par analogie, dans la Révolution française, on a vu apparaître l'illusion selon laquelle, une fois renversés les tyrans, il y aurait une adéquation et une harmonie à peu près naturelle entre le peuple, la nation, de sorte qu'il n'y avait plus place même pour la contradiction. Tout était conçu sur le modèle du complot, de la trahison, donc du fantasme de l'étranger. Ça a vite tourné comme ça. On pourrait dire que Marx, n'ayant pas ou rarement détaillé ce que pourraient être au moins les premiers pas au-delà du capitalisme libéral, il y a quelques éléments sur le droit, dans la critique du programme de Gotha, mais ce vide qui est un refus en même temps de construire des palais utopiques, etc., peut laisser place à l'idée que très vite, dans une transformation sociale, la classe, le parti et l'État s'identifierait, ne ferait qu'un. Ça, je crois que c'est une des faiblesses dont découle tout le problème de comment penser la démocratie, le pluralisme, le problème du droit comme problème spécifique, etc.
Alors, je pose la même question, Emmanuel Terret.
Je commencerai par faire la même réponse que Daniel Ben Saïd. Je pense que, d'une certaine façon, la question de responsabilité que vous posez se joue largement dans le passage de Marx au marxisme.
Oui.
Marx me paraît beaucoup moins responsable que le marxisme des catastrophes dont vous avez parlé. Il me semble que Marx a mis à notre disposition un instrument pour réfléchir le monde, pour le critiquer et pour le transformer. Mais un instrument vaut ce que valent ceux qui s'en servent. Et d'une certaine façon, les fins auxquelles cet instrument est soumis ne dépendent pas ou pas entièrement de l'instrument lui-même. Bien entendu, à mon sens, la possibilité d'une interprétation scientiste, évolutionniste, déterministe, existe à l'intérieur de la pensée même de Marx, non seulement dans le marxisme, mais dans la pensée même de Marx. Et Daniel Ben Saïd, dans son livre, cite un certain nombre des textes qui ont autorisé une telle interprétation. Ceci dit, cette interprétation scientiste, évolutionniste, déterministe, qui me paraît jouer un rôle fondamental dans les catastrophes qui ont suivi, dans l'interprétation aussi bien social-démocrate que stalinienne de Marx, ne représente pas ce qui est original dans l'apport de Marx. Et sur ce plan, je trouve que le livre de Daniel apporte beaucoup d'éléments. Ça ne représente pas ce qui est original dans la pensée de Marx, ça représente, au fond, l'influence de l'ère du temps sur cette pensée de Marx. Et Marx est influencé par l'ère du temps, n'y échappe pas, et est constamment obligé de dégager, d'extraire son originalité de cela. Mais une fois Marx disparu, eh bien, c'est cet apport-là qui est le moins original et qui est, d'une certaine façon, le moins spécifique de sa pensée, qui finit par triompher et qui conduit aux interprétations social-démocrates et aux interprétations de la Troisième Internationale et aux interprétations staliniennes qui, elles, alors, jouent un rôle tout à fait fondamental dans les catastrophes dont vous avez parlé.
Alors, quand même, pour en rester à l'originalité de Marx, et en effet, je crois qu'il ne faut pas succomber à cette espèce de tentation idéaliste qui est d'attribuer des catastrophes exclusivement à des pensées. C'est vrai que c'est une tentation qui a beaucoup existé à l'époque de la nouvelle philosophie et elle est très dangereuse. Cela étant, vous faites cette distinction donc entre ce qui revient proprement à Marx dans la pensée de Marx et cette ère du temps dont il ne sait pas se débarrasser. Quand même, il me semble que chez Marx, il y a toute une pensée du conflit, certes, évidemment, avec la lutte des classes, mais précisément, c'est une idée du conflit réduite à la lutte des classes et une espérance de résorption du conflit. L'idée, au fond, que le conflit dans les sociétés est quelque chose de provisoire. Ce qui veut dire que, autrement dit, est-ce que Marx fait vraiment à la politique la place qui devrait être la sienne? Et y a-t-il dans Marx la possibilité d'ancrer, en quelque sorte, le pluralisme? C'est-à-dire, ou la pluralité même, dans la condition humaine. On a quand même toujours le sentiment qu'il y a une mauvaise histoire des hommes, et qu'à cette mauvaise histoire des hommes va succéder un moment de réconciliation, de fraternité. Donc il faut aller jusqu'au bout du conflit, parce que c'est le dernier. Et est-ce que c'est justement pas ça qui a rendu possible, disons, un certain nombre de tyrannies totalitaires, ça qui est quand même au centre de la pensée de Marx, Daniel Ben Saïd?
Je pense que... Enfin, je suis pas tout à fait d'accord.
Bon, hein. Alors, c'est bien sûr.
Non, c'est que d'une part, la lutte de classe est le conflit qui, dans le mode de production capitaliste, rend intelligible le développement social. Ça ne veut pas dire que Marx a quand même une assez grande culture là-dessus, que dans d'autres sociétés, d'autres rapports sociaux, hiérarchiques, religieux, le conflit ne prenne pas d'autres formes. Il y a eu des conflits de groupes sociaux, de groupes hiérarchiques. Et d'autre part, ce conflit est toujours médié. Marx, dans les textes politiques, voire géopolitiques, on n'employait peut-être pas le terme à l'époque, mais que ce soit sur les guerres européennes, sur la guerre de sécession, et puisque vient de paraître le tome 4 à la Pléiade sur les écrits politiques, il y a au contraire une attention très méticuleuse aux médiations politiques, c'est-à-dire bon, les révolutions espagnoles de 1850, jusqu'au rôle de l'individu, tel général ou dans les 18 Brumaires. Donc, et quand on passe sur le terrain politique, justement, il y a pas de fusion totale du politique et du social. Sur le terrain politique, le conflit prend des expressions diverses. Qui, je crois, en tout cas...
Oui, d'accord, mais est-ce qu'il y a place pour le conflit après ? C'est-à-dire, le conflit doit prendre toutes ces expressions, il doit être exacerbé jusqu'à la Révolution, mais vous dites, Marx s'est gardé de tout utopisme, donc il ne décrit pas l'après, à la différence d'autres penseurs socialistes du siècle. Cela étant, est-ce que le conflit a sa nécessité, ou est-ce qu'après, il n'est pas de toute façon pensé comme quelque chose qui ne devrait pas être ?
Là, je crois qu'il y a une contradiction éventuellement chez Marx. Hein, c'est que il y a des textes qui... Alors, c'est toujours dur de faire d'établir le statut exact d'un texte, parce que il y a des textes qui ont une fonction polémique, publiciste, ou en gros, bon, la société sans classe, c'est une société réconciliée et transparente. Ça, c'est vrai. On trouve ça. En même temps, on peut au moins... conserver l'hypothèse selon laquelle c'est un type de conflictualité qui s'éteint avec le dépassement du capitalisme, mais que d'autres formes de conflictualité subsistent ou prennent le relais. Ça me paraît au moins concevable, hein, à moins de lui prêter. Alors, on retrouvera là aussi des formules pour étayer la thèse, mais une vision de la fin de l'histoire... Moi, je ne crois pas que, fondamentalement, Marx soit un philosophe de la fin de l'histoire. Mais...
Alors, Emmanuel Terray ?
Moi non plus, mais j'énoncerai volontiers cette difficulté autrement. Mm-hmm. Il me semble que ce qui a été perçu par Marx, mais de façon encore plus claire, par quelqu'un comme Rosa Luxembourg, par exemple, c'est l'idée que la révolution prolétarienne, qui marque l'horizon de la pensée et de l'action de Marx, est un phénomène tout à fait sans précédent dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, si elle se produit, et si elle se produit selon l'espérance que l'on en a, la masse elle-même, la grande majorité du peuple, accédera au pouvoir et accédera au gouvernement, alors que dans toutes les révolutions précédentes, c'était toujours une minorité qui prenait le pouvoir et qui gouvernait la masse au nom de ses propres intérêts. D'où la nécessité... face à une révolution ainsi conçue, d'inventer une politique complètement nouvelle. Une politique complètement nouvelle, puisque désormais, c'est la masse qui exerce le pouvoir sur elle-même et sur l'ensemble de la société, alors qu'autrefois, nous avions toujours une politique de minorité. Or, il me semble que sur cette politique entièrement nouvelle, nous avons extrêmement peu d'éléments, y compris dans la pensée de Marx lui-même. Nous avons extrêmement peu d'éléments. Je suis tout à fait de l'avis de Daniel Ben Saïd que Marx est un penseur de la politique. Les 18 Brumaires est un texte politique étincelant, mais c'est un texte politique qui concerne l'avant de la révolution prolétarienne.
Oui, c'est un penseur de la politique dans la critique.
Exactement.
Mais quelle est la place du politique et de la politique ?
Nous avons un vide, et ce vide, alors, dans la postérité de Marx... comme la nature idéologique et comme la nature en général est l'horreur du vide, alors ce vide a été rempli, mais a été rempli par des politiques bourgeoises qui ne respectaient pas cette spécificité de la révolution prolétarienne. En fait, la politique marxiste telle qu'elle a été pratiquée par les marxistes ensuite, elle doit beaucoup... Bon, à une conception du parti qui est largement empruntée, à mon sens, à la tradition de l'Église catholique, et d'autre part, à une conception de l'action politique qui est largement empruntée à Machiavel. Il suffit de lire Lénine pour voir à quel point la pensée de Machiavel pénétrait son action et aspirait son action.
Oui, je voudrais juste dire à ce propos que... Il y a quand même un point, à mon sens, fondamental chez Marx par rapport justement aux orthodoxies idéologies de parti qui sont développées postérieurement. C'est que quand on lit la correspondance, il y aurait de quoi faire frémir un léninisme vulgaire, parce que il dit bon, les questions ne sont pas du même registre et de la même durée. Et sur les questions théoriques, il est hors de question que le parti tranche. On va quand même pas faire décider de questions fondamentales par un aéropage incompétent. Il y a une autonomie. Et donc, ce serait absurde d'imaginer un congrès de parti votant sur la théorie des crises. Tout ça n'a pas lieu d'être. Et d'autre part, Marx est quand même pas si... Il est en pleine contradiction. C'est que le prolétariat est chargé d'une... En tout cas, d'une mission émancipatrice, mais il n'est pas du tout angélique sur l'état du prolétariat. Il n'arrête pas de dire dans le Capital, voilà une classe dépouillée de tout, mutilée physiquement, mutilée intellectuellement, et à la différence des révolutions ou des transformations sociales précédentes, comment de rien devenir tout, c'est un saut, effectivement, qui est un saut mortel, hein. Alors dans ce saut, peut-être que Marx, là je vais provoquer y compris, là où Marx n'a pas fait l'expérience, je dirais de manière tout à fait paradoxale et à contre-courant de ce qui se pense aujourd'hui, que celui qui a quand même flairé le plus les problèmes de l'organisation de la société, c'est Lénine. Sur la question des syndicats, sur la question nationale, c'est l'idée que justement, on ne peut pas tout intégrer dans le rôle de l'État. Bon, dans le fameux débat sur les syndicats, c'est... Or, dès qu'on pose le problème, la société doit trouver ses moyens d'expression propres. Sinon, même, on n'aura même pas les moyens d'information sur ce qui se passe, etc. Cette idée-là, si on la pousse un peu, appelle forcément une organisation pluraliste de la société. Et ces différences doivent s'exprimer aussi en termes politiques.
Il est clair que chez Lénine, ça n'a pas eu ses conséquences. Et il y avait aussi chez Lénine une obsession de l'unité de la volonté, un appel notamment au paradigme de l'armée. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait chez Lénine une contradiction tout à fait stupéfiante. D'un côté, c'était ce pacifiste intégral qui disait « il faut arrêter le social-chauvinisme, c'est horrible ». Et en même temps, il était totalement fasciné par la discipline, l'unité, voire la fraternité militaire. Donc, il voulait arrêter la guerre, mais pour l'introduire dans la paix, ou en tout cas pour l'introduire dans la politique. Et là, il a mené à ce moment-là une réflexion sur la lutte des classes qui allait jusqu'à son terme belliqueux. C'était plus tellement la lutte des classes telle qu'elle avait encore un lien avec le combat politique, c'était déjà la guerre civile et la guerre absolue. Donc, ça, la différence qu'il y a entre Lénine et Marx. Mais une dernière question que je voudrais vous poser maintenant sur la responsabilité éventuelle de Marx avant de passer au problème, de notre société aujourd'hui et de l'utilité qu'aurait pour nous une lecture ou une relecture de Marx. Et j'emprunte cette question à une réflexion de Hannah Arendt dans un article très intéressant intitulé « Les ex-communistes » qui était paru en 1953 en plein macartisme. Elle disait des ex-communistes que c'était pas tout à fait des anciens communistes, mais des communistes la tête en bas. Parce qu'ils se conduisaient exactement de la même façon.
Et on a
connu des exemples en France, et je crois qu'il n'est pas tout à fait la peine de faire un dessin. Mais alors, elle se dit, qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces ex-communistes et puis ces communistes? Il dit, ils ont très peu de scrupules quant aux moyens qu'ils emploient. Pourquoi? Parce qu'ils sont parfaitement convaincus de savoir ce qu'ils font quand ils agissent. Ils considèrent en effet qu'ils font l'histoire. Et voici la réflexion importante d'Anna Arendt pour nous. La confusion entre agir politiquement et faire l'histoire remonte à Marx. Celui-ci espérait, en effet, après que Hegel eût interprété l'histoire de l'humanité, être en mesure de changer le monde, c'est-à-dire de faire l'avenir de l'humanité. Si l'on a pu transformer le marxisme en une idéologie totalitaire, c'est qu'il a gauchi ou faussé le sens de l'action politique, comprise alors comme faire l'histoire. Et c'est de là, dit-elle, que vient la composante totalitaire du marxisme. Et c'est vrai que, on peut dire d'une certaine manière, Lénine était tout à fait convaincu qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Il y a là la dialectique de l'omelette et des œufs. Est-ce qu'elle ne vient pas précisément de cette confusion? Et cette confusion elle-même n'est-elle pas liée à une incapacité à penser justement au fondement de tout la pluralité humaine? Emmanuel Terray.
Je ne sais pas.
Vous n'êtes pas convaincu?
Non, je ne suis pas convaincu parce que... ceux qui cherchent à faire l'histoire essayent certainement de faire des omelettes et cassent des œufs. Mais je dirais que ceux qui ne cherchent pas à faire l'histoire cassent également beaucoup d'eux. Ils se cassent aujourd'hui, à l'heure actuelle, le communisme étant réputé mort, ou au moins en état de léthargie, ils se cassent aujourd'hui beaucoup d'eux. Ils se cassent même dans certaines régions, je vais en prendre une que tout le monde connaît, beaucoup d'eux, beaucoup plus d'eux qui ne s'en étaient cassés pendant la période communiste. Il y a eu beaucoup plus de morts en Yougoslavie depuis 4 ans qu'il y en a eu pendant la période de Tito, qu'on le veuille ou non. Par conséquent, le laisser faire, le laisser aller, la renonciation à intervenir sur le cours des choses est au moins aussi meurtrière, même si elle n'est pas aussi spectaculaire que l'intervention pour transformer. Alors ça ne veut pas dire que, bien entendu, il faut systématiquement casser les œufs, y compris quand c'est pour faire de très mauvaises omelettes ou pas d'omelettes du tout. Mais ceci dit, je ne crois pas qu'on puisse établir de balance comme cela et dire l'abstention, c'est la bonne solution parce que comme ça, on ne casse pas deux. Non, les œufs se cassent. Les œufs se cassent tous les jours.
C'est pas tout à fait ce que disait Hannah Arendt. Elle disait c'est l'action politique qu'il faut savoir différencier justement de cette idée qu'on fait l'histoire à partir d'un modèle préétabli. Donc, comment différencier action politique?
C'est la question du modèle préétabli qui est en cause en réalité. Pour revenir un instant en arrière, un des textes qui, pour moi, m'a toujours le plus frappé de Marx en ce qui concerne le problème du parti, et il y en a d'ailleurs fort peu, c'est la célèbre formule du manifeste « Les communistes ne se distinguent pas de l'ensemble du mouvement, sauf dans le fait qu'ils représentent les intérêts de la totalité de ce mouvement ». Bon, c'est un des textes les plus intéressants, car ils indiquent bien que le fossé qui s'est établi à un moment donné entre un parti guide et une masse destinée à le suivre, etc., ce fossé-là n'était pas dans la pensée de Marx. Les communistes devaient être les représentants, en quelque sorte, de ce qui rassemblait le mouvement au-delà de ses conflits, au-delà de sa diversité. Ça ne veut pas dire qu'il supprimait cette diversité, ça ne veut pas dire qu'il supprimait ce conflit, et je réponds ici en partie à votre question sur la pluralité, ça veut dire que, au-delà, ou en tenant compte de cette pluralité et de ces conflits, ils essayaient d'assurer l'unité de ce mouvement.
Oui, de ce point de vue-là, enfin, c'est un débat qui pourrait être intéressant. Marx n'est pas tellement léniniste, le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que, à plusieurs reprises, alors pour des raisons parfois tactiques, voire un peu mesquines, il y a la dissolution de la Ligue des communistes, il y a la dissolution de la Première internationale, mais il n'y a pas de fétichisme d'organisation. L'organisation, c'est le mouvement sous toutes ses formes de la classe. Et il y a des moments particuliers où ces mouvements se précipitent en une organisation politique. Et ils distinguent le parti historique et le parti conjoncturel, mais sans fétichisme aucun. Alors, le problème de faire l'histoire est quand même assez compliqué. Moi, je suis évidemment un peu prisonnier maintenant de ma lecture de Marx, c'est-à-dire je suis réellement convaincu qu'il a tourné le dos définitivement aux philosophies spéculatives de l'histoire au milieu des années des années 40 et qu'il n'y est pas revenu comme problème philosophique. Bon, il a fait autre chose, la critique de l'économie politique, la reconstruction de rapports temporels différenciés, articulés. Je pense que c'est ça son problème. Mais alors, faire l'histoire, ça, si on le prend dans ce sens-là, ça veut dire le conflit ouvert. Il y a pas, nous ne sommes pas les agents d'une histoire impersonnelle, d'un fétiche historique. Engels, qui parfois a la formule heureuse, dit de façon très véhémente « l'histoire ne fait rien », mais c'est l'histoire du conflit des hommes et des individus. Alors, le problème, c'est que tout ça est recouvert de tellement de croûtes historiques, et pas seulement. Je viens de relire un texte de Sartre qui est hallucinant. Il dit le Parti communiste, enfin, c'est l'aime, mais le Parti communiste, quelles que soient ses erreurs, est tellement lié au sens de l'histoire qu'il fait preuve d'une intelligence objective. Bon, c'est consternant. Là, mais ça, c'est pas dans Marx.
C'est dans Sartre.
On a peut-être été nourri de ça, mais...
Bien, mais alors, maintenant, je voudrais justement aborder le deuxième aspect de notre réflexion. Donc, en quoi Marx peut-il aujourd'hui nous aider à penser ce qui se passe et à agir dans ce qui se passe? Et puisque vous avez fait référence, Emmanuel Terray, au conflit dans l'ex-Yougoslavie, je voudrais poser une question, une seule, je vous rassure, sur ce conflit. Mais justement, parce que je crois que c'est très intéressant. Vous dites, on a cassé beaucoup d'œufs parce qu'on n'a pas agi. Mais pourquoi n'a-t-on pas agi? On n'a pas agi parce que on a eu une sorte de dégoût spontané des nations en général, des petites nations en particulier. On s'est mis à parler de tribus. On s'est mis à parler, à propos des nations, le langage de Marx et d'Engels, notamment à propos des nations sans histoire. Ces espèces de reliques ethnographiques, disaient-ils l'un et l'autre. Autrement dit, c'est comme si, dans la pensée libérale d'aujourd'hui, était passé l'héritage, les préjugés de Marx, plutôt que la grande pensée marxiste, en l'occurrence, qui est celle d'Otto Bauer. Réflexion sur la nation comme communauté de destin, essayer de montrer que si les prolétaires ont une identité de sort, ce n'est pas une communauté de destin. Nous, on a gardé, au fond, cette idée, le prolétariat n'a pas de patrie, donc on ne peut pas prendre aux ouvriers ce qu'ils n'ont pas. Il ne s'agit plus des ouvriers, il s'agit peut-être de l'homme émancipé par le virtuel, mais ce mouvement historique reste le nôtre. Et alors, donc, on peut poser une question plus générale. Nous vivons aujourd'hui une certaine réémergence des nations. Il faut faire le tri dans tout ça. En quoi, sur ce thème-là, Marx peut-il nous servir à quelque chose?
Je ne sais pas si Marx peut nous servir à quelque chose en ce qui concerne la réflexion sur les nations. Parce que Marx ne sert pas à tout, il n'est pas la panacée universelle, et je pense qu'on a eu trop tendance à s'en servir comme ça pour que nous puissions continuer dans ce domaine. Mais je voudrais faire une autre observation là-dessus. D'abord, en ce qui concerne la Yougoslavie, effectivement, les choses ne sont pas simples, car dans la Yougoslavie de Tito existait cette société multiculturelle dont aujourd'hui nous disons que nous déplorons la ruine et la fin et le triomphe du principe de la purification ethnique. Après tout, tous ces mariages mixtes dont nous déplorons la tragédie et la catastrophe dans la Yougoslavie aujourd'hui, ces mariages mixtes ont été conclus pendant la période de la Yougoslavie de Tito. Le Parti communiste yougoslave, dont je ne prétends certainement pas faire une organisation d'enfants de cœur, ni paradisiaque, mais avait pour premier secrétaire un croate, qui était Tito, le deuxième était un Slovène, Kardelj, le troisième était un Serbe, Rankovic, le quatrième était un Monténégrin, Djilas. Autrement dit, et quels que soient par ailleurs, d'une part, les défauts et les torts de la Yougoslavie de Tito et les responsabilités du régime titiste dans ce qui se passe aujourd'hui et qui ne sont pas niables, il reste que l'idéologie qui présidait à ce moment-là aux destinées de la Yougoslavie, avait assuré, sous une forme probablement dévoyée, déformée, etc., mais une forme d'unification, une forme de fédéralisme dont nous déplorons quand même aujourd'hui la ruine, parce que cette ruine a coûté extrêmement cher. Et on pourrait renvoyer le problème plus loin. À travers toutes leurs déviations, à travers tous leurs dévoiements, ces idéologies dont on a salué en 1990 la ruine et la fin définitive, avait tout de même une sorte d'avantage qui était une sorte de vocation universaliste. Et ce à quoi nous avons assisté, c'est quand même à la ruine de ces universalismes et au retour en force de toutes les formes de particularisme, qu'il s'agisse du particularisme national, qu'il s'agisse des particularismes religieux, etc. Moi, je déplore ce recul de l'universalisme. Je déplore ce recul de l'universalisme. Je ne crois pas que la simple morale kantienne à elle seule puisse suffire comme universelle dans notre vie intellectuelle, dans notre vie politique, dans notre vie pratique de tous les jours. Et je pense que, de ce point de vue-là, ce qu'on a appelé la mort des idéologies, c'est tout de même aussi une régression et un retour, mais j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, parce que c'est une idée à laquelle je tiens, oui, un retour à un monde que on avait espéré dépasser pendant un certain temps et dont nous voyons aujourd'hui la reconstitution. Ce qui d'ailleurs est peut-être une des raisons aussi du retour à la pensée marxiste.
Vous êtes d'accord avec ça, Daniel Ben Saïd ?
Oui, mais alors, je voudrais ajouter, on peut pas, sur la question nationale, hein, on ne peut pas aborder les positions de Marx. Ils ont écrit surtout Engels a écrit des horreurs effectivement, les peuples sans histoire qui devraient être balayés, puis avec des formules d'une brutalité incroyable. Mais quel était leur angle de perception du problème? On est au milieu ou dans le dernier tiers du 19e siècle, et pour Marx, c'est encore la formation des grands États nationaux comme un élément de modernisation et de dépassement des particularismes. Donc, Le jugement porté notamment sur les Slaves du Sud est pas intemporel. Il dit, bon, mais s'il y a des peuples qui n'ont pas réussi jusqu'à présent à se doter d'État et d'existence indépendante, mais ont toujours servi d'ailleurs de point d'appui contre les tentatives de révolution démocratique allemande et se sont appuyés sur l'autocratie tsariste comme gendarme européen, c'est une prise de position politique. C'est pas une prise de position essentialiste sur les nations. Évidemment, avec ce qui s'est passé par la suite, mais ça, à partir même d'une théorie se réclamant du marxisme, mais quelqu'un comme Rosolsky, qui connaît très bien, qui est au cœur des nations centro-européennes, a développé la thèse contraire à celle d'Engels, radicalement. Alors le dernier point, mais très brièvement, c'est que, bon, je refuse pas de rentrer la discussion sur la Yougoslavie et la Bosnie, mais si, ma position en tout cas est que sur la question bosniaque, effectivement, on peut pas être neutre. En revanche, si on défend le pluralisme culturel bosniaque, il faut constater que avoir laissé filer sans autre garantie le pluralisme yougoslave était déjà porteur de ça.
Oui.
Mais s'il n'y a pas eu de mouvement plus profond, c'est justement l'affaissement, je crois. Quel est le vecteur d'universalisation ? Là, il y a un rôle privilégié du conflit de classe. C'est que, à la différence des conflits religieux, des conflits nationaux, dans le rapport de classe, il y a toujours de l'autre côté de la frontière ou dans l'autre religion des gens avec lesquels on peut établir des solidarités. L'autre est toujours un autre soi-même. Moi, il me semble que c'est un des vecteurs d'universalisation possible. Dès qu'il s'affaisse, ce sont les autres conflits qui prennent le dessus.
Oui, alors c'est vrai, vous avez raison, nous ne pouvons pas entrer dans une trop longue discussion sur l'ex-Yougoslavie. Je la citais à titre d'exemple. Je voudrais simplement ajouter deux mots. Le pluralisme yougoslave affilé est mort en 1989, c'est-à-dire avec la reprise en main du Kosovo par la Serbie. On n'a pas voulu s'en apercevoir. D'autre part, il me semble que ce mépris, ce dédain a priori des particularismes a conduit à confondre, dans un même opprobre, disons, la défense de l'identité nationale et le nationalisme autoritaire, chauvin et impérialiste. Mais je voudrais ajouter quelque chose et qui permettra peut-être d'élargir le débat. Vous avez dit, Daniel Ben Saïd, que Marx s'intéressait aux grands États nationaux et avait peut-être un certain mépris des nations sans histoire parce que tout cela était pris dans un certain processus de modernisation.
Oui.
Mais c'est là, justement, d'ailleurs, que je vois la jonction entre histoire et politique, et je crois qu'on ne peut pas, en effet, oublier que Marx s'inscrivait dans la modernité, que la modernisation était son obsession. Mais justement, il y a eu un grand projet moderne qui, bon, il est né avec Bacon, c'est-à-dire assurer la domination de l'homme sur la nature pour améliorer la condition humaine. Et le marxisme a posé sa candidature, comme le dit Hans Jonas, en disant, c'est cette pensée-là qui peut effectivement accomplir réellement un tel projet qui lui donne toute son universalité. Mais précisément, est-ce que les questions aujourd'hui se posent en ces termes ? Et je remarque par exemple que dans le livre de Hans Jonas, il y a un effort, le principe responsabilité, un effort considérable pour substituer au principe espérance, qui est le principe même de la modernité, c'est-à-dire de l'idée que quand c'est moderne, c'est bien, de cette confiance dans le temps que représente la modernité, le principe responsabilité. C'est pas changer le monde qui importe, c'est sauver le monde. Ce sont des concepts de sauvegarde, de préservation, voire de conservation, qui sont effectivement étrangers au marxisme, mais qui aujourd'hui acquièrent une certaine urgence. Alors, dès lors que nous vivons ce basculement, la question que je pose, c'est en quoi Marx peut-il vraiment nous aider ? À moins peut-être que vous ne soyez pas d'accord avec un tel basculement.
Non, je ne suis pas d'accord avec ce basculement, parce que il me semble que, d'une certaine manière, on pourrait présenter aussi le projet marxiste comme un projet de salut, pour une raison très simple, c'est que ce principe espérance dont vous parlez dans la pensée de Marx n'est qu'un des deux termes de l'alternative. Et l'autre terme, c'est la barbarie. Marx et Engels, d'ailleurs, ont toujours dit l'alternative qui nous est proposée, l'avenir qui nous est proposé, c'est deux possibilités, et non pas une seule, c'est socialisme ou barbarie. Et deux possibilités sans tiers intermédiaires. Si on ne construit pas le socialisme, on va sombrer dans la barbarie. Et d'une certaine manière, le projet de socialisme peut apparaître aussi comme un projet de salut. Et de mon point de vue, par rapport au monde tel qu'il existe aujourd'hui, sous bénéfice d'inventaire sur la définition du socialisme, mais une telle alternative n'est pas passée de mode. Je veux dire, la barbarie, c'est quelque chose qui est tous les jours à notre horizon.
Oui, justement, c'est l'autre terme.
Elle a pris quelques longueurs d'avance.
Mais c'est l'autre terme sur lequel on peut s'interroger, parce qu'il y a, je disais, vous avez parlé vous-même, Daniel Ben Saïd, donc de modernisation. Marx est engagé dans ce processus, il veut l'accomplir, il veut l'accélérer, il veut le faire réussir, mieux que ne peut le faire, à son avis, bien sûr, la société bourgeoise, qui doit céder la place. Et puis, il y a quand même cette idée qu'on doit passer d'une technique limitée à une technique libérée de toute entrave. Cette idée-là est très forte dans la pensée de Marx. On peut comprendre l'attrait qu'elle exerçait au XIXe siècle, mais notre siècle nous oblige quand même à prendre distance avec cette confiance dans le temps, avec cette confiance dans la modernité, et pour finir, avec cette confiance dans la technique.
Non. Je suis pas sûr. Qui est une adhésion à la modernisation? Alors, moi, j'ai travaillé assez longtemps au Mexique. Bon, Marx, vu par les Mexicains, c'est les textes approuvant l'annexion du Texas, de la Californie, etc. Contre ces Mexicains paresseux, bon, les États-Unis vont apporter le progrès et l'industrie, etc. Bon. Ça, c'est vrai. Maintenant, je ne crois pas quand même que ce soit aussi unilatéral et qu'on puisse réduire Marx à un productivisme enthousiaste. Il y a au moins présent chez lui le souci de l'ambivalence du progrès. C'est-à-dire que le progrès, justement, le progrès technique ne garantit pas ipso facto un progrès social, un progrès culturel, un progrès éthique. Il peut même produire le contraire. C'est absolument clair concernant les ravages sur l'agriculture. Donc, je crois qu'il y a une perception beaucoup plus contradictoire du progrès que, par exemple, dans la pensée positiviste, qui a dominé la culture française et universitaire française en particulier. Alors, en quoi Marx peut être utile aujourd'hui? D'abord, l'actualité qui rebondit a rien de surprenant. Son problème, c'est pas d'être un génie historique, mais son objet, c'est le capital et la généralisation des rapports marchands. Or, ce qui n'était encore qu'un îlot européen, américain au XIXe siècle, là, on est justement dans le règne planétaire de la marchandise. Dans la marchandisation, enfin, c'est hallucinant, les ventes d'organes au Brésil, le brevetage des plantes par les multinationales pharmaceutiques. Bon, on a l'impression que tout ce qui était dans un espace public, même de communautés indiennes, tout ça tombe maintenant sous la coupe de la marchandise. De ce point de vue-là, je vois pas de point de départ, je dis pas de théorie bouclée, mais de point de départ critique autre que Marx. La deuxième raison, c'est que je crois que ça serait peut-être une des pensées du XIXe siècle la moins dépaysée par nos propres bouleversements, je dirais presque culturels et scientifiques. Là aussi, pour une raison, c'est que Marx est déchiré. Il aimerait bien trouver pour l'économie des lois, il n'arrête pas de le dire, comparables aux lois de la physique. Il est fasciné par le modèle physique ou chimique. Mais en même temps, l'économie ne fonctionne pas, ne se comporte pas comme une mécanique. Et alors il dit, bon, il faudrait trouver des mathématiques non linéaires, on n'a pas les outils. Il est donc confronté à un objet qui l'amène à penser des lois, mais des lois tendancielles. C'est-à-dire, bon, des lois qui se contredisent elles-mêmes. Il y a toute une batterie conceptuelle qui fait que... Je crois que c'est utile aujourd'hui. Enfin, le dernier point, il faut confronter à d'autres théories.
Oui.
Aux théories libérales, vous avez des théories comme la théorie du choix rationnel, qui fait les beaux jours des universités américaines, et même d'ailleurs qui a pas mal pénétré le marxisme anglo-saxon.
Oui, vous en parlez assez longuement dans votre
livre. Ah oui, parce que je pense que là, c'est marier l'eau et le feu. Hein.
Mmh. Oui, mais alors, bon... Justement, on va essayer de réfléchir sur peut-être un problème particulier. Donc, on dit qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société d'exclusion. Il me semble que je ne dirais pas la pensée marxiste, mais disons le discours marxiste, quand il revient dans la politique, dit ceci. Exclusion, c'est un terme mensonger, c'est-à-dire on parle des exclus, comme si c'était une fatalité, comme si c'était une passivité, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On oublie, donc on voit une critique de l'idéologie. Et en fait, s'il y a des exclus, il y a des gens pour exclure. Et donc il faut désigner les coupables de l'exclusion. Et c'est là que je vois à l'œuvre une pensée, si vous voulez, dont la générosité n'est pas en cause, dont la vigilance doit être soulignée, mais en même temps qui ne me semble pas à la hauteur de la question. C'est-à-dire on cherche des coupables, on cherche des responsables, on cherche une volonté mauvaise ou une mauvaise volonté derrière que l'on pourra désigner, et on dira, ben voilà, alors toi tu vas arrêter, tu vas payer. Or, le vrai problème, me semble-t-il, et c'est là peut-être que d'autres penseurs que Marx doivent nous aider, c'est qu'on est quand même pris dans une sorte de processus, j'irais jusqu'à murmurer, dans une sorte de volonté, qui fait en effet que le travail est progressivement marginalisé du processus productif, que les hommes politiques, quoi qu'ils fassent, sont amenés aujourd'hui à gérer ces contraintes, ils n'arrivent pas à libérer un espace politique, ce n'est même plus une question de bonne volonté, même pas chez les patrons. Alors c'est encore plus affolant, c'est-à-dire comme si nous étions soumis à des décisions que personne ne prend. Mais ne pas voir ce phénomène et chercher la mauvaise volonté qui se cache derrière, et celui qui gagne de l'argent et qui va pouvoir payer, ou bon, ça c'est, je caricature, mais chercher la mauvaise volonté, est-ce qu'on est à la hauteur de ce qui se passe, Emmanuel Terray?
Certes non, mais chercher la mauvaise volonté est une démarche tout à fait étrangère à l'esprit du marxisme. Ce que Marx a mis en cause, c'est un système, et les capitalistes dans ce système, il les a décrits comme les fonctionnaires de la structure, comme les supports de la structure. Mmh. Ça n'est pas du tout un problème de bonne volonté. C'est que pour exister à l'intérieur de ce système, compte tenu des lois de ce système, eh bien effectivement, les capitalistes sont obligés d'exclure, car s'ils n'excluent pas, ce sont eux-mêmes qui sont exclus, bon, par les lois de la concurrence. Alors le problème est celui du système. Alors il est vrai le problème qui se pose, c'est aussi le statut du travail, le fait que, voilà, en réalité, il y a de moins en moins de travail. Là-dessus, quelqu'un comme André Gorz, à mon avis, a dit des choses extrêmement importantes, et c'est vraiment dommage qu'il soit beaucoup moins influent en France que, par exemple, en Allemagne, où je peux attester, pour l'avoir vu, que c'est quelqu'un qui joue un rôle tout à fait important dans la réflexion collective. Quelqu'un comme André Gorz l'a vu, mais ceci dit, André Gorz nous montre très bien comment, face à cette réduction de la masse de travail disponible, plusieurs voies sont possibles. L'une qui consisterait à partager le travail, à partager le loisir et à organiser le temps libre. L'autre qui consiste à utiliser cette restriction du travail pour créer d'un côté de nouveaux privilèges, pour faire du travail un privilège, d'un autre côté pour multiplier ce que Gorz appelle très justement les emplois serviles. Et nous voyons bien qu'en réalité, l'immense majorité des emplois dont on nous annonce périodiquement la création sont des emplois serviles, au sens que Gorz décrit. Là encore, il y a un choix. Il n'y a pas de fatalité. Si nous laissons le système fonctionner selon sa courbe actuelle, nous savons effectivement qu'il y aura de plus en plus d'exclus et qu'il y aura de plus en plus d'emplois serviles et qu'il y aura finalement une société de plus en plus invivable. Autrement dit, et je conclue, les gens qui peuvent être accusés les gens par rapport auxquels on peut mener un combat, ce ne sont pas les gens qui, par leur position dans le système, excluent, bon, encore que certains excluent plus volontiers que d'autres, mais ça, c'est du ressort de la liste syndicale et les choses peuvent voir, mais c'est le choix global par rapport à ce système, ou bien on l'accepte et on accepte la barbarie qu'il implique, ou bien on le conteste et on essaye de le renverser, oui, et d'en substituer un autre.
Alors justement, ben ça, je vais poser une question à tous deux là-dessus. Bien sûr, il parlait de fatalité est effectivement très contestable et même très dangereux. Ce n'est pas une fatalité. Cela étant, Notre société se libère aujourd'hui du travail, et le travail a été considéré pendant les siècles et des siècles comme une malédiction. Or, cette libération terrifie tout le monde. Et d'ailleurs, les élites aujourd'hui n'ont pas le loisir ostentatoire, elles ont en quelque sorte le travail ostentatoire. Les élites travaillent tout le temps, elles ont des téléphones portables, il y a une espèce de surmenage, d'affairement exhibé, pour bien dire. Donc le travail reste la valeur suprême. Et c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire, comment, dans une société où le travail est la valeur suprême, comment faire pour se libérer du travail, ou comment faire pour vivre cette libération comme une véritable liberté, quand on a perdu le sens du loisir, quand on a perdu le sens du loisir tel qu'il pouvait exister autrefois, dans d'autres types de sociétés. Et là, Marx aussi, quand même, a sa part de responsabilité, parce que lui aussi a quand même tout misé sur le travail. Il a joué là-dessus. C'est pas chez Marx qu'on peut trouver, me semble-t-il, une réflexion sur les autres activités pour lesquelles il vaut la peine de vivre. Alors, vous semblez en désaccord, Emmanuel Terray.
Non, parce que je suis en désaccord parce que deux textes me viennent à l'esprit.
Oui, oui.
D'une part, les textes que vous connaissez, des manuscrits de 1844, où Marx exalte la polyvalence, la multiplicité des activités, y compris, et la suppression finalement de la distinction du loisir et du travail, puisque dans le travail on s'accomplit. Ça, c'est une première série de textes qu'on peut récuser parce que on dira que c'est des textes de jeunesse, mais il y a aussi le célèbre texte où Marx dit avec la révolution nous passons du règne de la nécessité au règne de la liberté, et la clé de ce passage c'est la réduction de la durée du travail. Et de ce point de vue là bien entendu, Marx n'a pas décrit dans le détail, et heureusement, comment est-ce que nous remplirions notre temps une fois que le travail serait libéré. Mais il me semble tout de même que le problème est posé et qu'il est posé en ces termes.
Daniel Ben Saïd, pour conclure,
parce que malheureusement, les choses terminent. D'une part, ce que dit Marx, qui me paraît toujours fondamental d'ailleurs, c'est reconquérir le loisir peut-être, mais à partir d'un travail aliéné, on aura toujours des loisirs aliénés. Donc les deux ne peuvent pas être dissociés. Deuxièmement, il y a une idée très forte qui va dans le sens de ce que citait à l'instant Emmanuel Terray, qui est dans les Grundrisse, c'est que la mesure de toute richesse humaine par le temps de travail deviendra de plus en plus misérable et inadaptée. On est en plein dedans. C'est-à-dire que, bon, ça ne fonctionne plus, aussi bien du point de vue de la question de l'emploi que du point de vue, par exemple, des grands problèmes écologiques. On ne peut pas mesurer ça à un travail immédiat. Enfin, je vais quand même y aller de ma part d'archaïsme. L'exclusion, c'est l'envers de l'exploitation.
Bien. Oui. Écoutez, nous terminerons sur cette conclusion radicale, abrupte, et je voudrais rappeler les titres de vos livres. Daniel Ben Saïd, vous avez publié chez Fayard Marx, l'intempestif, Grandeur et misère d'une aventure critique, 19e, 20e siècle. Emmanuel Terray, il y a quelques années, ce très beau livre donc chez Actes Sud, Le troisième jour du communisme. Et puis je voudrais citer quelques autres ouvrages qui témoignent de ce retour de Marx.
Bon, les tonalités naturellement toujours la même, mais qui sont toujours des articles guidés par une humeur. Enfin, qui...
Ah, il est très.
Voilà.
Oui.
Donc, c'est toujours Brossard, on reconnaît toujours Brossard, mais c'est pas évident que tous ces articles réunis ensemble, par exemple, arriveraient à donner une pensée claire et singulière. Moi, je connais peu. Hein.
Ouais, tu as raison.
Et même, il me semble qu'il t'a... tu sais, j'ai fait un truc à l'Odéon parce que je m'occupe des rencontres philosophiques de l'Odéon, surtout de la résistance, c'était le machin qui m'occupait à l'époque. Et t'étais là, Brossard était là, d'autres étaient là. Et Brossard a tapé sur les trotskistes, qui étaient encore des vieux léninistes.
Oui, mais ça je sais, moi ça me fait sourire.
Et il était à ma droite, t'étais à ma gauche.
Oui. Non, mais on s'entendrait bien.
Moi, j'ignorais que vous vous entendiez bien. Bon, après, bouffe, tout ça est passé, j'ai oublié. Mais je me suis dit, sur le moment, moi, je dis rien. Tout le monde est capable de se défendre par soi-même, mais...
Il est mal à l'aise, mais ça, c'est un peu à la limite, c'est de la psychologie. Derrière, il y a un problème substantiel, c'est que dans son travail de rupture ou de deuil, etc., il l'a pas fait simplement. C'est-à-dire qu'il est... Quelqu'un qui dit, j'ai tourné la page, je suis passé à autre chose. Donc, il a le besoin de régler des comptes, et un petit peu, en particulier, vu qu'on a un rapport privilégié quand même, de me chercher ou de m'houspiller. Bon, et moi, Je ne vais pas escalader avec Brossard, c'est pas mon... Bon, il y a eu des moments où on a eu des polémiques un peu publiques sur la question de l'URSS, etc. Parce que je pense que... Mais là, parce qu'il y a un enjeu, c'est que je pense qu'il est passé... Alors, il cherche quelque chose. Il avait une... Et du coup, alors, il passe d'Anna Arendt. Mais... Foucault, il a... qu'est-ce qu'il en a pris? Il prend une lecture sur, par exemple... Il efface complètement toute dimension historique, sociale, et il fait du décodage symbolique sur alors, les lieux de mémoire, les monuments, etc. Mmh. Mais on ne voit plus comment ça se rapporte. Mmh. Alors, je ne dis pas, j'ai peut-être tort d'essayer de le rapporter.
Mais quand il ne connaît pas, on voit qu'il se cherche. Enfin, moi qui suis très très extérieure, hein, on voit qu'il cherche ses marques et qui pour le moment, il les trouve chez autrui. Et il essaie d'élaborer quelque chose... Mais moi, je te dis ça de l'extérieur. C'est quelqu'un dont je ne connais pas du tout, etc. Mais on voit très bien qu'à un moment donné, Arendt lui a été profitable.
Oui.
Et on voit maintenant que...
Ça l'a aidé à liquider une part de son passé, voilà. Qui était l'idée gauchiste, avant-gardiste, machin, etc.
Voilà. Ça l'a aidé, et maintenant, ça ne l'aide plus. Comme c'est fréquent, X nous aide intellectuellement ou personnellement d'ailleurs. Bon, et puis maintenant, il en a comme... bon, moi aussi, à un moment donné, j'ai traversé Arendt. Bon, on en fait quand même relativement vite le tour. Et donc maintenant, il faut quelqu'un d'autre. Et c'est Rancière. Mais il a encore des traces d'Arendt. Alors ça fait un... Non, ça va pas dans la même direction.
Non, en même temps, j'écoute. Enfin, parfois, je trouve que c'est un peu facile. Il fait comme il a beaucoup de facilité. Mais c'est vrai, moi, je suis toujours attentif parce que il a une acuité. Enfin, il y a une vivacité de perception, ce que tu disais, sur des situations avec finalement des entrées qui sont toujours un peu inattendues.
L'article dans le numéro là, de la ligne, c'est une entrée extrêmement... Je veux dire, moi, c'est l'un des articles qui m'a le plus... les autres, ils sont... Bon, le plus... comment dirais-je... Surprise, enfin. L'angle d'attaque, je ne m'y attendais pas.
Non, il ne laisse pas indifférent, mais alors après... Bon, et du coup, alors, il se paie. Alors, cette attitude-là... Toi, moi, de façon différente, on peut faire la part des choses. Tu dis, bon, voilà, il faut prendre ce qui est intéressant, voir. Bon, t'es pas dupe de ce qui tient pas à côté. Mais comme il le fait toujours sur le ton, effectivement, tu disais, c'est très juste, de l'humeur, même quand il s'engage dans un truc de longue haleine. Et alors, du coup, c'est quelqu'un qui s'est toujours mis, qui s'est fabriqué des ennemis. Moi j'en ai pas mal et ça me gêne pas, parce qu'en fait c'est ça l'avantage du militantisme, c'est que bon, ça fait partie du jeu, oui. Tu veux pas, bon, si t'as la peau sensible, bah faut pas faire. Bon, je suis pas du tout cynique, mais bon, c'est comme ça, tu prends des coups, tu t'abandonnes, mais c'est pas grave. Mais lui, alors, il a besoin de créer l'antagonisme. Et alors, du coup, il a des ennemis. Et il y a une injustice sur l'affaire. Alors là, autant, enfin, je peux m'engueuler avec lui, mais là, il y a une défense absolue. Cette histoire des temps modernes. L'histoire des temps modernes est une vraie saloperie.
Ça, c'est dommage.
Oui. Non, mais en plus, ça l'est.
Il ne faut jamais.
Tu sais d'où ça vient.
Non, mais l'état moderne, Lanzmann est fou, donc c'est.
Quoi, alors je vérifie que ça tourne.
Oui, alors. Je raccorde comme je peux.
Oui, mais donc, je me démerderai, pas.
Alors, contre ce concept de tort qui me paraît éthico-théologique. Je pense que celui d'injustice est préférable. Il est préférable, me semble-t-il, un double titre, ou peut-être un triple, je ne sais plus. Je ne sais pas ce que j'ai demandé. Préférable, d'une part, parce que finalement, c'est un concept... très ancien, le concept grec qui est le concept qui désigne l'objet de la politique dès le début, certes sous le couple injustice-justice, et que l'injustice justice peut être individuelle, mais elle est essentiellement collective. Tandis que tort collectif, moi je n'avais jamais entendu parler encore. D'autre part, injustice me paraît avoir un intérêt en politique considérable. C'est que tout le monde sait, parce que la ressent, ce qu'est la justice, et qu'il n'est pas besoin de savoir ce qu'est la justice pour s'indigner. Je garde ce terme d'indigner qui permet d'intégrer l'histoire de dignité de tout à l'heure, pour s'indigner contre elle et pour se mobiliser contre elle. Troisième raison, qui part en très léger décalage, mais là je l'assume comme tel, avec ce que j'aime dire, ce qu'on appelle le côté positif, enfin non, la justice, elle a plutôt un versant philosophique, donc du coup il n'y a plus de décalage. Un versant philosophique, parce que l'adjectif juste correspond à un double substantif qui est justice et justesse, et que on est bien obligé d'aborder à un moment donné le rapport, quand on est philosophe, entre philosophie et politique, car tout philosophe se sent contraint à une cohérence entre ce qu'il dit en philosophie et ses positions politiques. Or, le mot de justice désigne à la fois ce qu'on pourrait appeler quelque chose qui est juste, c'est-à-dire quelque chose qui est fondé, qui est correct, qui tient le coup, qui est au fond l'équivalent du vieux mot de vérité, et qui est aujourd'hui difficile à prononcer, mais plus facile de dire c'est juste. Et puis il y a un autre mot, un autre substantif, qui est celui de justesse, et qui me paraît assez approprié pour l'action politique, parce qu'une action politique doit être juste, mais elle doit être aussi ajustée à une situation. Une même revendication dans deux situations différentes ont à la fois un sens différent et donc un effet différent. Et donc une action doit être toujours ajustée, c'est-à-dire au temps et au lieu, c'est-à-dire à son temps. Voilà, toutes les raisons pour lesquelles le mot de justice me paraît préférable en politique à celui de tort, et en philosophie à celui de vérité. Et pour en revenir à la politique, peut-être même, bien que ce soit un concept qui m'attire, je crois, comme tout le monde, à celui d'égalité, qui est le concept qu'a remis en valeur avec très grande force et grande justesse, justement, Rancière. Finalement, l'égalité est transcendantale de la politique, et ça, je crois que c'est une intuition très juste. Mais on a vu tout à l'heure les difficultés dans lesquelles ensuite Rancière était prise.
C'est bien, c'est clair, c'est bien, c'est bon. Alors en fait, bon, on en revient, mais bon, c'est peut-être, c'est pas là. Du coup, j'ai l'impression que comme on a on a circulé, c'est par le bonheur, mais je pourrais le...
Oui, c'est pas changé. Oui.
Non, non, c'est pas compliqué. C'est dû venir peut-être par avant, ça vient plus logiquement. C'est que... je reprends mon fil, c'est que mm-hmm. il me semble que le concept de résistance tel que tu l'avances, en fait, reprend, et tu le dis peut-être dans la conclusion de l'article sur la Lune, peu importe, en fait, reprend le pas ou prime, il efface pas, mais j'ai l'impression qu'il reformule autrement, ou en tout cas qu'il intègre à une problématique sensiblement différente la notion d'événement, notamment parce que, pour deux raisons, c'est-à-dire que d'un côté, la résistance, alors, ah si, ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais te poser, mais c'est pas du tout là. Enfin, moi, je suis déjà parti sur un truc, je vais le finir, mais je sais ce que je voulais te demander. Bon, c'est que la résistance en question, oui, pour deux raisons, c'est-à-dire que d'une part, en tout cas en politique, je dis pas, même si c'est un sens plus large, elle reprend quand même une inscription temporelle. Et d'ailleurs, et donc c'est un aspect de la question, avec ta lecture de Benjamin, on sent que le concept de résistance flirte, et en plus il y a aussi l'influence, je crois, pas du tout cachée ou scellée de Derrida, donc flirte avec le concept de messianique, ou la notion, je ne sais pas si elle est réellement élaborée, décantée. Est-ce que de ton point de vue, il y a une conjugaison, une articulation explicite possible des deux?
Oui. C'est-à-dire que dans mon bouquin sur Benjamin, j'avais essayé de construire un messianique, je dis bien un messianique, sans messianisme et sans messie. Je pense que c'était d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, l'idée profonde de Benjamin
lui-même. Oui, tout à fait.
Et bon, la dernière thèse sur le concept d'histoire a une intéressance, ce soit la dernière thèse sur le concept d'histoire, dit que qu'est-ce que c'est que le Messie ? C'est une porte qui s'en trouve maintenant. Donc, pour moi, ce que j'avais intitulé dans un livre intérieur « Le commencement », puis ensuite que j'ai moi-même intitulé « L'événement », que Badiou a intitulé, sans que nous concertions, « L'événement », et maintenant le surgissement d'une résistance qui donc fait infléchir la courbe de l'histoire. Pour moi, c'est, tout cela, c'est la même chose, parce que c'est c'est le fait d'entrer en résistance qui fait que le monde qui apparaissait sans issue, puisque on pourrait dire la logique du capital, la logique du marché, ou bien dans la vie personnelle, le destin, envahit tout. Donc, ferme absolument la situation. Et donc, entrer en résistance ouvre un espace. C'est-à-dire, fait que là où on ne voyait que des murs, l'action et le courage maintenus dans cette action, fait ouvrir une porte. Ici et maintenant, et c'est ça pour moi le messianique, c'est-à-dire une porte qui s'ouvre, c'est-à-dire un autre monde possible qui s'ouvre. Regardez-moi, c'est une interprétation. Donc c'est comme ça que je... Un autre monde apparaît comme possible, alors que jusqu'à maintenant, les gens, la majorité des gens, pliaient sous l'impossible à vivre, enfin sous l'invivable, et qu'il déclare à un moment donné être terminé.
Est-ce que tu es d'accord sur le fait que, pris dans ce sens-là, que je crois partager,
je sentiment un peu, oui.
Que le messianique, dans ce cas-là, se confond pas du tout avec l'idée d'utopie. Parce que
l'utopie, c'est l'avenir, et le messianique, c'est maintenant.
Oui, c'est pas du tout le même temps. Et bon, parce que là, il y a un discours aujourd'hui sur la... D'ailleurs, c'est un problème qui est assez compliqué. C'est que justement, à quel moment est-ce que cette idée de résistance... Tu insistes beaucoup sur le ici et le maintenant, et qui donc permet d'ancrer ou de rapporter la résistance à cette idée du messianique. Bon, l'idée du mur et de la porte, on voit bien. Mais en même temps, est-ce que... c'est là que je vais forcer le trait du soupçon, parce que finalement, je crois que je suis assez d'accord avec beaucoup de points qui me paraissent des points d'appui majeurs. Mais il y a quand même un soupçon.
Ouais.
C'est que... l'accent sur cette notion de résistance soit une autre forme de réponse à une conjoncture, une situation au sens relativement large, hein, des années, ce qu'on décrit sur les années 80, qui est quand même une rétraction de la temporalité sur le présent, qui est aussi l'expression d'une difficulté à penser dans la durée, dans la construction, dans le projet, ce qui est différent de l'utopie où tu en appelles à un futur, etc., mais qui est de projeter un présent tel qu'il est, mais sur un passé. Bon, là, il y a une espèce de d'ailleurs, un dérèglement, sans le prendre dans un sens normatif, mais les copains membres dans le mouvement des chômeurs disent, c'est très frappant, il y a eu des enquêtes sociologiques au Canada, etc., mais qui... Ils vérifient, ils disent qu'il y a une temporalité politique et sociale du chômeur de longue durée, qui est de toute façon une banalité, c'est un constat, mais qui se vérifie, qu'on pouvait évidemment pressentir. C'est une difficulté à se projeter, mais même dans sa vie quotidienne, à élaborer un temps, parce que tu vis de la perception du RMI, c'est fini,
donc
tu es dans le court terme permanent, et y compris l'idée de l'action est une action mise bout à bout d'action ponctuelle, c'est pas du tout l'idée de construire ou des rapports de force ou quelque chose dans la durée, etc. Alors qui peut avoir un envers, justement, et qu'on retrouve aussi dans le débat du mouvement des chômeurs, c'est une sortie de ce présent étouffant par le haut, sous la forme utopique radicale, mais qui n'est pas non plus la construction d'un projet politique, qui est à la limite, ce qui était le cas dans les vieilles utopies, c'était de faire descendre le royaume de Dieu sur terre, c'est pas la construction d'un avenir, c'est d'où d'ailleurs les formes très, très radicales, puisqu'on n'a pas de travail, à défaut d'un travail, un revenu sans travail, ça se débat sur le revenu universel, il y a la version libérale qui est une obole, et puis la version utopique, on peut le concevoir, mais qui un système de redistribution généralisée. Tu es dans ce mouvement-là, mais est-ce que tu, tout en restant dans cette rapport de tension dont on parlait, qui est constitutif finalement de l'espace et de l'action politique, est-ce que l'accent aussi fortement sur une problématique de résistance rentre pas en même temps ne subit pas finalement cette rétraction de temporalité?
Je suppose que ça recoupe un des premiers mots que tu as dit, qui était que une logique de soupçon, effectivement. Quand tu as parlé, j'ai pris des notes. Une redéfinition de la politique comme un peu défensive.
Oui.
Hein, ça recoupe.
Oui, c'est ça, voilà, tout à fait.
Alors, j'ai essayé, mais je n'y suis peut-être pas arrivée, à montrer. Enfin, ça a été un de mes grands objets, parce que c'était pas, me semble-t-il, facile. J'ai essayé de montrer que la résistance, effectivement, spontanément, c'est une réaction immédiate à une situation vivable. Mais tout mon objet a essayé de montrer, a consisté à essayer de montrer que la résistance mobilisant de l'énergie, de la ténacité, etc., n'était pas simplement défensive, elle était inventive, qu'elle. bon, qu'elle pouvait souvent être accusée de corporatisme. Hein, bon, tous les sociodémocrates actuels accusent tous les mouvements, tous, hein, de novembre 1995, des chômeurs, etc. Ce qu'on appelle la nouvelle gauche, esprit et compagnie. Tous ces mouvements ont été accusés d'être des espèces de reliquats ou de résistance corporatiste, archaïque, et qui n'était pas dans le fil de l'histoire, qu'il fallait qu'ils se rendent compte qu'il y avait une rationalité, une modernisation, bon, etc. etc. Bon. Et ce que j'ai montré dans différents chapitres, me semble-t-il, c'est que, certes, par définition, comme indique le mot résistance, on réagit à une situation, et que par rapport à cette situation, on vient en deuxième. On n'a pas eu l'initiative de la situation qui vous a été faite. Bon, bien. Bon, mais que toute résistance, à partir du moment où elle entrait en action, inventait des idées. Enfin, inventer des idées, c'est mal dit, mais était contrainte, enfin, était contrainte, le mot n'est pas bon non plus, mais était amenée en même temps qu'elle demandait des revendications pour faire en sorte que la vie présente soit invivable, pour faire en sorte qu'elle ne soit plus invivable, était amenée ouvrir un autre monde où un monde de justice, un monde qui mériterait un monde autre. Je crois qu'il n'y a pas de revendication qui tienne s'il n'y a pas par derrière un horizon. Alors là, pour en servir la politique par rapport à la police, mais un horizon qui est un minimum de projet politique possible, il ne faut pas ce que tu appelais l'utopie qui descend du ciel, etc. Ça me paraît indissociable, et c'est pourquoi j'ai essayé de montrer que toute résistance était active, pas simplement, et parce qu'elle paraît réactive, active, affirmative, déclarative, qu'un autre monde est possible. Avec qui n'est pas.
Donc en fait, par le fait même de la mise en action, la résistance n'est pas condamnée à être
défensive sur
sous la dépendance de l'instance. Elle en est forcément tributaire parce qu'elle est résistance réactive.
Affirmative d'un autre monde possible. Ça, je crois que c'est un des points, c'est un de mes leitmotifs. Enfin, ça fait partie d'un point important de ma construction du concept de résistance. C'est pas un concept intéressant. Et en plus, non seulement c'est pas un concept intéressant, mais qui donne prise à la critique très vite.
Bah écoute, là j'ai à peu près, je crois que en fait en croisant les trucs, j'arrive à peu près. J'avais un petit truc, je crois que j'ai un truc que j'ai laissé sur le côté. C'était. C'est pas là, encore une fois, c'est pas ce qui me préoccupe, c'est parce que je trouve que la critique est totalement pertinente, mais c'est pas de revenir à Badiou, c'est. Je trouve que de mon point de vue, tu mets le doigt très justement sur le. Tu le dis, je crois, dans ces termes-là, sur le formalisme de la fidélité. Tu sais plus très bien. On ne sait pas toujours. En tout cas, moi, j'ai du mal à démêler chez lui. Tu le dis bien mieux que je m'en souviendrai. Mais alors, en fait, je le citais, mais pour en venir à.
Oui.
À la quête. Voilà, c'est ça. Que, bon, tu dis. Parce que toi, tu insistes beaucoup là dans la vie, et dans le bouquin, et dans l'entretien, sur un point de croisement, un point commun, sur l'idée de ténacité, de persévérance, on a parlé tout à l'heure, volonté, courage. Bon. Mmh. Alors lui, il dit, bon, la nomination prescrit la fidélité, et ça j'ai compris, et en plus, je vois bien, en plus, c'est pas seulement que je vois, mais en fait je ressens comment... parce qu'inévitablement, dans j'aime pas le mot d'engagement, enfin, dans un parcours politique, tu es construit sur des fidélités. Bon, alors oui, bon, le théorise, bon, fidélité à des noms propres, puis finalement, c'est pas vrai que ça fonctionne. Il y a la commune, truc, octobre, bon, truc. Alors, et à partir de là, continuation, persévérance. Alors, toi, puis ténacité et persévérance.
Oui.
Mais alors, tu dis, alors, lui, quel est le contenu de la fidélité? Alors, évidemment, là, on retrouve le problème de la séquence et du truc, c'est que. N'est-il pas contraint à n'être que la forme de la forme soit fidèle à la fidélité, dit Badiou, c'est une bonne formule.
Non, c'est moi qui l'écris un peu ça, je crois.
Non, non, c'est une citation, hein, je crois.
Ah,
dans l'éthique, oui, oui, ça,
ah,
soit fidèle à la fidélité.
Ah, c'est pareil, c'est une formule que j'ai chopée. Pour la
non, que tu as laissé, entre guillemets, soit fidèle à la fidélité, dit Badiou, c'est bien.
Ah bon,
bien
non, mais je veux dire, c'est un peu comme la formule, je l'ai.
Ah, tu l'as très bien, capturée.
Voilà, parce que bon, ça devient un peu.
Et tu dis, et le commentaire là qui est de toi, c'est il y a là cette fois comme un air de formalisme. Oui, c'est le même qu'on puisse dire. Et alors, tu as une espèce de fidélité. L'impératif de fidélité ne dit ni à quoi ni comment. Et je crois que ça aboutit effectivement à ça. Alors, toi, en revanche, alors, l'envers positif de cette critique, bon, est-ce que tu reprends à ton compte, et là aussi, comment tu lis l'idée de ces résistances, bon, qui arrivent, qui surgissent, qui répondent, bon, qui réagissent, à cette idée de continuité, de fidélité. C'est-à-dire, comment toi, tu reformules la notion de fidélité de manière cohérente par rapport à ton idée de résistance?
D'abord, je n'utilise pas le terme de fidélité pour ma part.
Bon, tant pour moi. Je te l'attribue, alors.
Non. C'est pour ça que, tu vois, cet article, tu vois, c'était assez difficile. Je voulais pénétrer dans Badiou, montrer les points positifs. Et puis, enfin bon, tu vois, c'était un exercice qui n'était pas facile. Je voulais pas être très critique envers lui, parce que bon, donc c'était un exercice difficile.
C'est assez critique.
Ah oui.
Non, mais à critique, à mon avis, il n'y a pas de.
Non, mais.
C'est une critique qui semble tout à fait légitime.
Non, mais parce que, entre nous, j'ai organisé un samedi du livre sur Deleuze. Et j'aime beaucoup Alain, hein. Bon. Mais je l'ai, le livre, totalement descendu. Et Alain Badiou, qui m'aime beaucoup, parce qu'il se trouve que j'ai des pépins dans ma vie par ailleurs, et qui m'aime beaucoup aussi pour ça. Et là, franchement, j'ai tellement été critique que quand même, il m'a battu froid, tu vois. Bon, alors, moi, on ne se rend jamais exactement compte.
Ah non, moi en fait, j'ai du mal à me mettre dans la peau de Badiou. J'ai l'impression qu'une critique comme ça me ferait plutôt plaisir, parce que c'est justement aussi une vraie critique. Et bon,
bref, je ne sais pas. Mais fidélité, moi je ne. Non, pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons, mais qui pourraient se résumer à celle-ci, qui est un de ces concepts fondamentaux de ce petit ouvrage de l'éthique, un des concepts fondamentaux, qui s'appelle la trahison. Fidélité marche dans un couple qui s'appelle fidélité-trahison. Ça suffit déjà me méfier de ce concept. D'autre part, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit dans l'article, en fait, la fidélité est un nom propre, mais le nom propre est choisi. Le nom propre est décidé. Il est l'objet d'une décision, une déclaration, comme on dit chez Badiou. À très juste titre, là, je suis d'accord. Pourquoi, notre vision du 19e siècle, c'est 1830-1848, la Commune. Bon, c'est un choix. Bien. Mais ensuite, qu'il y ait fidélité à ces choix, par exemple, fidélité à 17, qui fait qu'ils se disent bolcheviques, ou fidélité à je ne sais plus quelle séquence, fait que d'autres noms propres peuvent surgir dans l'histoire. C'est ça un événement. D'autres noms propres surgiront. Mais je ne suis pas sûre qu'ils puissent autant repérer la singularité entièrement nouvelle d'un nom propre à partir du moment où ils ont déclaré qu'ils devaient être fidèles à toute une série de nos
propres
intérieurs.
Cette fidélité risque de faire écran à l'accueil, à la disponibilité.
Voilà, parce que ça se joue complètement ailleurs et d'une nouvelle manière. La preuve en est que, donc, je ne sais pas si tu te souviens, dans l'éthique, je le répète, je suis d'ailleurs venu publiquement avec Alain là-dessus, mais c'était très plaisant, donc c'est la trahison. Hein. Je ne sais pas, moi je n'ai jamais été bolchevique, mais la trahison, dans l'histoire, quand on est militant politique, ben, ça veut dire que si vous trahissez, vous êtes exécuté. Moi c'est un concept qui me
terrorise. Je n'ai pas du tout perçu ça.
Esquisse de la théorie du mal. Qu'est-ce qu'est le mal? Le simulacre et la terreur. Deuxièmement, la trahison. Je trouve ça effrayant quelqu'un qui a partagé votre fidélité et qui s'en sépare soit considéré comme un traître, au lieu de dire que c'est quelqu'un qui, dans les relations amoureuses, quelqu'un qui ne vous est plus fidèle, vous n'allez pas le traiter ou la traiter de traîtresse automatiquement. Sinon, ça veut dire quoi? Que vous allez la persécuter, enfin bon, je ne sais pas quoi. Bon, en politique, on sait ce que ça veut dire. Persécution, exécution. Bon. Donc, moi, je n'utilise pas le terme de fidélité. En plus, je pense que la fidélité est parfois beaucoup plus complexe qu'on ne pense. Et que sans faire de la sophistique particulière, comme il me semble, parfois on est plus fidèle dans une apparente infidélité que l'inverse. C'est-à-dire que la fidélité est plus difficile que ne le croit Badiou de savoir où aller et comment aller. C'est pourquoi je préfère des termes comme persévérance et ténacité dans l'action, qui me paraissent moins porteurs de quoi? Peut-être finalement de morale. Peut-être finalement de morale, puisque finalement la traîtrise et la fidélité, c'est finalement peut-être des catégories morales. Je dis morale parce que la trahison est une figure de l'éthique. En tout cas, la fidélité est aussi est quelque chose, me semble-t-il, qu'on exige de soi, oui, mais qu'on exige aussi des autres. Tandis que ténacité et persévérance, si on est dans une organisation, bien sûr, on l'exige des autres, mais il n'y a pas la force prescriptive, injonctive, j'allais dire menaçante, et qui peut être terrorisante dans l'exigence de fidélité et de son envers qui s'appelle la trahison. Tandis que l'envers de la ténacité et de la persévérance, bon, ben, c'est un manque de ténacité, mais ce n'est pas une volonté du mal, je ne sais pas si je me trompe.
Oui.
Tandis que celui qui n'est pas fidèle, il est animé par la volonté du mal, je veux dire.
C'est pas la tête, hein, tout ça.
C'est la combat qui sont restés totalement nus.
En plus, il y a une rhétorique, un vocabulaire de la politique qui est très marqué, les années 30, la trahison, justement, là, c'est un vocabulaire courant. C'est pas par décision, mais insensiblement, je crois que, enfin, personnellement en tout cas, je crois que je suis arrivé à m'en défaire. Alors que c'était un classique, parce que c'est la trahison des staliniens, des bureaucrates, etc.
C'est un concept léniniste.
C'est courant.
C'est un concept léniniste.
Et après, chez les trots, alors.
C'est pire que chez les mamans.
Mais Non, pas dans la fin, ou autant, avec sûrement moins de religiosité, ça c'est toujours une différence, mais autant, parce qu'en plus tu comprends très bien, là, pour des raisons banalement historiques, comment ça vient, c'est-à-dire que t'as une espèce de désespoir politique. En gros, la production de Trotsky en tant que telle est intéressante, parce que, bon, t'es un type. Après, il y a des paramètres personnels, parce que caractériels, qui font que... Moi, paradoxalement, je trouve Lénine plus sympa. Bon, Trotsky est vraiment un aristo qui ne devrait pas être commode. Mais ce qui a marqué les organisations issues de ce courant-là, c'est tout un discours et un moment de discours qui est un moment de désespoir politique. C'est-à-dire, on s'en montait dans les années 30, un discours de défaite, une lucidité sur la probabilité de la catastrophe, ce qui fait qu'au fur et à mesure que tu avances, tu sens même presque mois ou année par année que justement le vocabulaire de la trahison monte en puissance, qui est un vocabulaire de dépit. Alors en particulier, moi ce que je connais bien, c'est toutes les...
Plus la situation est mauvaise,
t'as l'idée,
plus il faut trouver des boucs émissaires.
L'Allemagne, alors tu dis l'Allemagne c'est la dernière chance d'une bifurcation, éviter la... Bon, c'est une défaite. Alors, deuxième joker et peut-être dernière chance, je crois qu'il a vraiment vécu comme ça la guerre d'Espagne. Alors du coup, devant l'enlisement dans l'échec, effectivement, il faut des coupables. Et bon, ces pauvres types du POUM, dont on peut penser qu'ils ont fait des conneries politiques, qu'ils n'en fait pas, mais au lieu de dire bon, ils ont fait des erreurs, ils ont tort, etc., c'est traité sous le thème de la trahison.
Oui, au lieu d'avoir des discussions, et on constate
ce pauvre Andresnine. Et alors du coup, tu as une espèce de modèle de discours qui, pour des gens, sont minoritaires, qui sont obligés toujours de justifier leur état minoritaire, dire alors pourquoi, alors bon, c'est parce qu'on est persécuté, on devient un peu parano, tu as une pathologie de la minorité qui est presque inévitable, il faut essayer de ne pas trop tomber dedans, mais enfin en partie tu subis. Et du coup, tu as ce discours tout près qui te justifie, tu dis, on est trahi par-ci, par-là, par les autres. Bon. Et tu étais dans un environnement complètement parano de trahison multiple.
Et en plus, comme ces groupes circulent en milieu fermé.
Alors bon, on a eu du mal. Alors bon, là anecdotiquement, il y a les. C'est vraiment des voyous, je ne ferai plus jamais avec eux là. Mais bon, c'est les types d'Albin Michel m'avaient demandé ce truc sur le gouvernement. Enfin, ça ne devait pas être au début sur le gouvernement Jospin. Ils m'avaient demandé un truc pour les élections, elles devaient être en 98, qu'elles soient anticipées.
Ah oui, t'as commis une petite chose. Oui.
Alors, bon, ils me demandent un bouquin. Moi, je demande. Je suis un peu mauvaise conscience de militant. Là. Donc, je dis aux copains de la Ligue, bon, on me demande ça. Ça me fait chier, c'est pas mon priorité d'aller commenter. Les élections, enfin à l'époque ça devait être pour les élections. Quand on dit écoute, on va passer sous la table, nous on compte pas. Si on peut être partie prenante du débat, bon, d'accord, je signe le contrat. Entre temps, dissolution de l'Assemblée, pim, gouvernement Jospin. Alors moi je dis bon, ils vont enterrer le projet, tant mieux. Et puis Albin Michel dit non, évidemment ça change l'angle, mais enfin maintenant c'est gouvernement de gauche. Bon, allez, voilà, alors. Emmerdé parce que ça m'a obligé pendant quand même 4 mois à traiter les sans-papiers. Enfin, ça m'intéresse, mais bon, le truc chevènement, les lois, le co-développement, les 35 heures, ça m'intéresse, mais en fait, c'est pas ma priorité. Et alors, c'est des voyous, c'est pas grave, je regrette pas, parce que c'est une espèce que ça fait un peu manuel pour les militants, ils ont sur les grands sujets, les privatisations, etc., un argumentaire. Mais les types sont des cyniques. C'est Pfister et Wickham. Ah, ils ont des trucs bien parce que c'est eux qui ont édité. Enfin, ce qui est vicieux, c'est que la maison comme telle. Alors, j'ai hésité aussi pour ça. Parce que, bon, ils ont fait Baril, les trucs à sensation, etc. Ah, oui. C'est un peu crapoteux. Bon, en même temps, il y a Figuier avec sa collection, etc. Qui est super sympa et tout. Donc tu peux pas dire c'est pas une maison facho. Bon. Et finalement,
c'est pas une maison facho, mais c'est une maison qui marche avec des coups.
Mais il marche au coup. Mais alors, Pfister que j'ai connu à l'époque où il était au Monde, avant qu'il passe à Matignon, son passage à Matignon l'a transfiguré.
Totalement, mais.
C'est devenu un cynique qui...
Tu sais, je ne suis pas sûre, bon, moi je ne connais pas du tout ce monde du pouvoir, mais passé par le pouvoir, je ne sais pas s'il y en a un qui résiste, justement, qui résiste à ce monde.
Oui, c'est possible.
Je veux dire, ils sont sacrément costauds.
Dans le sens ou dans l'autre,
ils doivent se conduire, ils doivent se compter sur les deux.
Alors, ce qui est complètement déprimant, c'est qu'ils se foutent complètement. Ils veulent du texte. Et bon, vous avez écrit ça comme ça, ça serait mieux comme ça. Je dis non, mais bon, Le problème, ce serait peut-être mieux, mais c'est faux. Je veux bien, y compris, avoir un ton polémique, faire un peu du pamphlet. Enfin, quand même, en tout cas, ça correspond à mes convictions, que ce ne soit pas faux. Ils en ont rien à foutre, ils veulent des formules. Et alors, ça a été la guerre, j'étais aux Antilles, moi, pour chasser au téléphone jusqu'à la fin. Voilà, on s'était mis d'accord sur une quatrième de couverture. Finalement, c'est pour qu'elle soit plus tonique. Ah bon, oui, oui, on a fait un projet. Bon, ben, lisez-le moi, déjà, c'est pas. Tu peux rien faire. Tu es au téléphone, dis. Alors voilà, on a mis. Il y a un an, Jospin promettait la révolution. Il me faut encore. Si j'ai jamais cru ça, je n'ai pas.
En plus, Jospin est assez malin, il n'a jamais promis la révolution.
Évidemment.
Mais, c'est un type très habile, très prudent.
J'étais furieux, alors c'est pour ça l'histoire. Et ils disent, bon, on voudrait un titre. Ils m'ont foutu un titre à la con que je ne voulais pas, mais finalement. Mais en plus, ils mettent sous titre l'éternelle trahison de la gauche. Alors justement, c'est une raison de principe, y compris pour moi, je dis non, c'est un mot que j'emploie plus, je ne dis pas que j'emploierai jamais, parce qu'il y a peut-être des cas extrêmes, mais en tout cas, je compte le banaliser. Bon, il ne faut pas déconner, donc je dis non. Et c'est vicieux, alors ils ne pouvaient pas quand même aller, parce que sinon ça aurait fait un clash. On dit non, bon, d'accord, on retire, on a fait la maquette, on retire, mais ils ont quand même entre-temps envoyé une espèce de notes d'annonce à la presse, où il y avait ça. Alors j'arrive dans l'avion, je vois dans le Nouvel Observateur, j'étais furieux, bon, je dis, voilà, vous pétez ma gueule, je téléphonais, ah, mais il dit non, c'est un contre-temps, effectivement, on a changé, mais les papiers étaient déjà partis. Alors tu peux pas les coincer, mais bon, avec eux, voilà.
Non, c'est des maisons d'édition, il faut éviter de faire contact.
Oui, mais là, je suis coincé, moi, si j'étais d'un statut, si tu veux, d'intellectuel, je ne dis pas au sens péjoratif, mais de fonctionnement universitaire, de recherche, évidemment, je ne ferais pas ça. Là où je suis toujours dans ce qui fait aussi ce qui permet à Brossard de me taper sur le bec, c'est où je suis dans la contradiction, c'est que je fais des choix dont je pense qu'ils sont préjudiciables par rapport à un travail de discussion sérieux, etc., mais qui, dans mon idée, alors évidemment, il y a un arrière-plan aussi, de ce qu'est la bataille politique, bon, ben, à un moment donné, je dis, bon, ça, c'est le, finalement, ça fait partie, finalement, de ce que tu peux faire sur le plan militant. Bon, t'es dans la bagarre.
Là,
alors, Surya me dit.
Peut-être être prudent sur ces lieux, quand même, sur les lieux où. Bon, Alba Michel, c'est là où. Ou les fachos, pas les fachos, enfin,
non, le vocabulaire, ou des gens de Chauvis sur les Aubrac, ben, etc.
Puant, voilà, Chauvis sur Aubrac, ou bien Godineau, ou ce mec odieux, là, toujours, lettre ouverte sur la vérité, je sais pas quoi. C'est quand même une maison qui a la spécialité de publier des trucs orduriers, de l'ordre du caniveau. Toujours la grande révélation sur on vous pique, vous contribuables, vous, etc. Et au collège, on avait à un moment donné une maison d'édition chez Alba Michel, donc